le Christ, pour revenir à lui, j'ai une autre approche de son geste de crucifixion, oui. Comme tu as pu le lire oui. dans mon livre. Pour moi, en tant que chaman, il connaissait les secrets du dépassement de la douleur et du dépassement de la persécution du corps. Et je ne pense pas qu'il ait voulu, comme on le dit, cette crucifixion, mais il en a profité pour montrer que l'homme avait des pouvoirs tellement importants quand il savait vivre d'une manière juste, qu'il pouvait dépasser la mort et revenir de la mort. Les chamans peuvent devenir des immortels. Pas nécessairement en s'offrant en sacrifice sur une croix ou en se jetant du haut d'une falaise ou des choses comme ça, mais ils sont capables de transformer leur corps en lumière et même de sortir de leur corps physique pour reproduire une deuxième copie de leur corps physique, mm-hmm. une copie réelle. Mm-hmm.
Mais ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le corps glorieux, en fait, c'est comme si Jésus était passé dans son corps lumineux pour oui. contrôler un retour à la vie.
Oui. Ouais, c'est ça, ouais. oui, c'est tout à fait ça. La crucifixion, c'est important, l'interprétation qu'on en a fait. On en est encore à la croix, avec la souffrance, l'expiation et la crucifixion du Christ. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la croix plutôt que le Christ en résurrection, qui est revenu avec les mains comme ça pour montrer ses plaies, mais pour asservir dans la soumission le peuple, pour lui dire qu'il faut souffrir. Oui. Suivez l'exemple. Et comme ça, on a servi les gens beaucoup plus facilement.
Et donc, moi, est-ce que... payer les impôts.
Voilà, et souffrez, ouais. bossez, souffrez. Ouais. Surtout à une autre époque, mais pareil, c'est maintenant. Hein. Pour moi, un ouvrier de chez Renault, il en bave autant qu'un serf du Moyen-Âge. Il n'a pas d'horizon plus intéressant. Encore le serf du Moyen-Âge, il avait la nature quand son boulot était fini, une belle nature saine. Mais l'ouvrier de chez Renault, il est dans Paris, dans le métro ou dans le train de banlieue. Il vit un enfer. Concernant le Christ, je pense que, d'ailleurs, je le développe dans mon livre, c'était un homme extraordinaire, c'était un grand chaman, pas un petit chaman. Et qui nous a montré, en fait, qu'il avait confiance en nous pour devenir nous-mêmes des immortels. Il a donné l'exemple. Sa crucifixion et surtout sa résurrection, les deux allant ensemble. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion, mais il peut y avoir crucifixion sans résurrection. C'est un petit peu ce que nous montrent les croix à tous les coins de chemin, à toutes les églises, dans tous les calvaires et dans tous les cimetières. La souffrance. Pourquoi toute cette souffrance? Alors que le Christ, il a montré qu'il pouvait en revenir de la mort. On insiste beaucoup trop là-dessus. Ouais. C'est bizarre, non?
La vérité est ailleurs. Encore une fois.
La vérité n'est pas dans la vérité officielle, on dira. La vérité est à l'intérieur de nous.
Mais alors, pour en revenir à votre dernier livre, parce que, non, on blague un peu, mais votre vision du monde actuel, j'ai trouvé qu'elle était, non pas dure, parce que moi, je l'entends, ce que vous dites, mais on pourrait croire qu'elle est un peu pessimiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Alors pessimiste, oui, réductrice, non. Je pense, sans fausse modestie, avec le moins d'ego possible, que j'ai une vision assez synthétique. Ouais. Et puis j'aime bien survoler de haut. Hein. Souvent j'utilise la comparaison d'un tableau. Vous aimez les tableaux, vous allez dans un musée. Vous avez un grand tableau de plusieurs mètres carrés, je ne sais pas moi, de Goya ou de n'importe qui, ou de Vermeer. Vous n'allez pas aller le regarder avec le nez comme ça, à 2 cm du tableau, parce que là vous verrez une tache de couleur marron ou rouge ou vert. C'est tout ce que vous verrez, si vous avez le nez sur le tableau. Mais vous vous reculez un petit peu, à 20 cm, ah là vous voyez la tête d'un personnage. Ça devient plus significatif. Puis vous reculez un petit peu, ah là vous voyez que le personnage est assis à une table. Avec d'autres personnes, ils sont en train de boire une cruche de on ne sait pas quoi. Puis vous reculez encore, ah cette table est à la sortie d'une auberge. Puis on voit des enfants qui jouent dans le pré. Puis on recule encore et c'est un tableau de peintre hollandais quelconque. Voilà, donc cette vision, ce recul sur les choses, si on veut être lucide par rapport à l'époque actuelle, il faut vraiment le cultiver et encourager à ce que les gens le cultivent aussi. Et pessimiste, alors oui, parce qu'on est vraiment dans un marasme matérialiste terrible. Par contre, très optimiste, puisqu'il y a une porte de sortie. C'est de retrouver nos spiritualités naturelles, qui n'est pas religieuse, mais qui est simplement de faire le silence à l'intérieur de nous pour découvrir que nous avons des pouvoirs de conscience absolument méconnus et oublié de l'immense majorité de l'humanité, d'une part, et d'autre part, de s'apercevoir que la Terre est d'une beauté et d'une extraordinaire générosité, que c'est un paradis. Quand dans la Bible, il parle de paradis terrestre, moi je dis que c'est tout à fait juste, la Terre est un paradis. Mon épouse et moi, on est dans la nature à peu près tous les jours pendant 2 heures. On a la chance d'habiter dans la montagne noire à côté de Mazamet. C'est d'une beauté, vous marchez en silence Et vous regardez tout ça, vous vous dites, mais c'est un paradis la Terre. C'est un paradis. Qu'est-ce qu'on en a fait avec le matérialisme? On est en train de la détruire. C'est une réalité. C'est pas du pessimisme. Mais il y a pessimisme pour le présent, comme constat. Mais pour proposer un changement de vie, il faut bien dire pourquoi on propose un changement de vie. Alors moi, je fais d'abord un constat. Le bouquin, il est bâti comme ça. Et ensuite, je propose une renaissance. Le sous-titre, c'est « Pour une renaissance individuelle et collective dans la conscience élargie ».
C'est revenir à l'instant, en quelque sorte. Ce que vous proposez, c'est une des techniques. Et se libérer, vous dites, se libérer de la mémoire et de l'égrégore humain. C'est-à-dire quitter un peu le domaine de la tête, du mental, et tout à coup explorer peut-être toutes ces richesses qui se trouvent plus dans le corps, dans la conscience du corps.
Alors, le corps est un outil extraordinaire pour arriver, c'est un raccourci vers la conscience élargie. Plus on se rapproche de son corps, se rapprocher, ça veut dire vivre intimement dans la sensation de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est-à-dire être dans son corps, que l'on soit en train de faire un exercice de yoga ou de qigong ou de gestes de conscience toltèque, ou en train de laver la vaisselle, ou en train de marcher dans la rue, ou en train d'éplucher un oignon, être présent, non seulement dans son corps, mais dans ce que fait le corps. Et ça, c'est un moyen, c'est un raccourci. Vous venez de parler d'une chose importante, c'est l'égrégore humain. Il faut quitter l'égrégore humain. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui crie fort, qui a beaucoup d'audience et qui sait parler à beaucoup de gens, comme les gens qui utilisent les médias pour faire valoir leurs messages et leurs besoins, eh bien, les gens sont comme des moutons, un troupeau de moutons. C'est-à-dire, ils vont tous dans la même direction et ils obéissent à la voix du plus fort. Et ils ne pensent plus par eux-mêmes. Ce n'est pas un phénomène uniquement récent, le grégarisme. Le grégarisme existait déjà du temps de Rabelais, puisque Rabelais parle des moutons de Panurge. Le bélier est jeté à l'eau, tous les moutons se jettent à l'eau. On l'aurait jeté dans le bateau, tous les moutons seraient allés dans le bateau. Et actuellement, avec la puissance immense des médias qui nous entourent de toutes parts, qui sont partout dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, les gens n'ont plus la possibilité de penser par eux-mêmes. Ils pensent comme on leur dit de penser. Alors ça, ce que moi je propose, mais ça c'est un outil éducatif de grands, grands changements, parce que ça c'est quelque chose qui n'a jamais existé, penser par soi-même. Très peu. Il y a toujours eu une minorité qui pensait par elle-même et qui menait le monde autour d'elle. C'est de créer une éducation nouvelle, complètement nouvelle, fondée sur la réflexion et la créativité personnelle. Ça, c'est vraiment un outil collectif. Hein. C'est un outil individuel, mais surtout collectif. Voilà, parce que les enfants, par exemple, à l'école maintenant, on leur bourre le crâne de tous les outils du système. Les ordinateurs, la comptabilité, le commercial, etc. Mais on ne leur fait pas faire beaucoup de créativité. On ne leur permet pas de penser par eux-mêmes. On en fait des petits soldats du système. La créativité est une chose un petit peu différente de penser par soi-même.
Ouais.
C'est deux choses très, très positives. La créativité amènera quelqu'un à penser par soi-même, mais pas nécessairement. Penser par soi-même, c'est arrêter avec la paresse de l'esprit. C'est très facile d'adhérer aux messages d'un journal, de la télé, de l'ordinateur, Wikipédia, Google, les affiches, la pub, la radio, les messages gouvernementaux. C'est plus que facile, c'est magnétique. Et quand le cerveau fait ça, et ça fonctionne depuis très très longtemps, ben, la personne abdique à sa pensée personnelle, à ses goûts personnels, même à ses goûts. Tous ces gens qui vivent comme des moutons et qui suivent le consumérisme, qui sont devenus des producteurs-consommateurs permanents, des esclaves du système, ils n'ont pratiquement jamais essayé de se libérer de ça en se disant « Est-ce que c'est vraiment mon besoin de m'acheter tout ça ? Est-ce que c'est vraiment mon besoin de produire des trucs toxiques pour la Terre ?»
Je ne sais pas si vous connaissez Gurdjieff, il parlait de pensée mécanique, ça rejoint un peu ça.
Oui, mais c'est ça. La pensée mécanique de Gurdjieff, c'est ça. C'est abdiquer à sa réflexion. C'est même plus de la pensée, c'est de la réflexion. C'est-à-dire, je dois réfléchir par moi-même. Et pour réfléchir par soi-même, il faut observer. Il faut se taire et observer, recevoir l'information telle qu'elle est, recevoir ce qui est autour de nous, et l'ingurgiter, l'analyser et le cérébraliser soi-même. Si je regarde cette porte, vous me dites « Oh mais, tu sais, c'est pas une porte en fait, c'est de la décoration. » Moi, je n'ai pas envie de croire ce que tu me dis, j'ai essayé de... Je vais ouvrir la porte, je vais dire « Non, c'est pas de la décoration. » Mais si toi, tu es quelqu'un d'important, je vais me contenter de dire « Ah, c'est de la décoration. Ah, d'accord. Oui, bon, d'accord. » Mon esprit devient paresseux. Ça ne veut pas dire qu'il faut douter de tout non plus. Qui croire et qui ne pas croire? À qui adhérer? À quel message adhérer? À quel message ne pas adhérer? Ça, se poser déjà cette question et dire « je veux vivre ma vie ». C'est un individualisme non égoïste. Parce que la plupart des gens qui vont entendre ça, ils vont dire « oh là là, mais c'est le retour à l'ego, là, c'est tout pour moi, rien pour les autres ». Pas du tout. Si je suis moi-même épanoui, en étant moi-même en toutes circonstances, je vais donner le meilleur de moi-même autour de moi. Je vais donner des choses bien meilleures que si je suis un petit mouton. Si je suis un mouton, je vais donner du moutonesque, je vais donner du grégaire.
Pour vous, la solution chamanique, c'est un juste retour à l'origine, d'avant la religion, d'avant...
Tu sais, parfois, tu prends un chemin dans la forêt, puis au bout d'un moment, tu as fait quelques centaines de mètres, ou un kilomètre ou deux, puis tu as plusieurs voies qui se présentent. Tu en as une à gauche, une autre à droite, un peu plus à droite, une troisième. En fait, il y a quatre voies. Tu te dis, laquelle je vais prendre? Bah, celle-là. Puis tu prends cette voie, puis c'est un cul-de-sac au bout, où le terrain est inondé, où il y a des broussailles très désagréables, des ronces, tout ça. Tu te dis, merde, je me suis trompé. Tu vas revenir en arrière. Puis tu vas dire, bon, bah, je vais essayer l'autre. Et là, c'est le bon chemin, parce que c'est celui-là qui va plus loin, ou un autre va vers un endroit agréable. Bah, c'est un peu ce qu'on a fait avec la science et le matérialisme, le scientisme. Le scientisme n'est pas la science. C'est la religion de la science. Il y a des scientifiques qui ne sont pas scientistes. Ils sont même spiritualistes. Je suis sûr qu'il y en a quelques... J'en connais quelques-uns. Pas personnellement, mais j'ai lu des livres d'eux. Fridtjof Capra, par exemple. Pour répondre à ta question, oui, nous devons rebrousser chemin un petit peu en arrière, un petit peu. À un moment donné, on aurait dû réformer la religion pour cesser d'en faire un instrument de cohésion sociale, pour en faire un outil de développement personnel. Si le christianisme, très tôt, avait été utilisé comme un instrument de développement personnel, ça ne serait peut-être pas arrivé. Ce que je veux dire, c'est que moi, je fais une distinction entre spiritualité passive, aller à l'église, faire des signes de croix, écouter le curé, repartir, mettre ses doigts dans l'eau bénite, faire ça, etc. La spiritualité active, c'est travailler sur la conscience du corps, c'est faire de la méditation, c'est faire du silence intérieur, faire du rêve. Et le Christ est un bon exemple de guérisseur. Si on a envie d'être guérisseur, on peut suivre son exemple. Et quand même, il y a des très belles paroles dans l'Évangile. Tu as vu que je les ai analysées et que j'ai ressorti leur contenu chamanique. J'ai décodé certains messages du Christ pour montrer que c'était des messages chamaniques. Il y en a une quinzaine, à peu près. C'est comme quand j'ai décodé Castaneda. Dans Castaneda, celui qui lit ça une fois ou deux, il ne va pas comprendre grand-chose, il va trouver ça passionnant, mais il ne va pas décoder l'enseignement. On peut faire la même chose avec le Nouveau Testament, mais plus faire de la religiosité.
Oui, c'est vrai que vous avez cet art de rendre accessible, finalement, et compréhensible l'œuvre de Castaneda, qui est parfois assez ardue, c'est vrai. Donc merci pour ça. Et d'ailleurs, ma dernière question, chaque année, vous relisez l'intégralité de l'œuvre de Castaneda. Depuis 25 ans, vous faites ça. Oui. Et donc, c'est tout ça qui vous amène finalement à cette vision, à ce que vous êtes.
Oui, pas seulement, parce que la lecture ne suffit pas. Hein. Oui. Sinon, on en reste à l'intellect, là. Parce qu'on peut très bien lire des centaines de milliers de bouquins de spiritualité et être un véritable imbécile à côté et se conduire d'une façon complètement... Non, ça ne suffit pas. Mais c'est vrai que j'ai lu 23 fois, je suis en train de lire en ce moment la 24e fois, l'œuvre de Castaneda, parce qu'à chaque fois, vu qu'entre-temps, moi j'ai évolué, donc j'ai une autre façon de décoder l'œuvre, et je rentre dans une œuvre à tiroir. Et en dessous, dans un tiroir, il y a un tiroir un peu plus petit. Puis j'ouvre le tiroir un peu plus petit, il y a un autre tiroir. Puis j'ouvre des poupées gigognes.
Donc pour vous, c'est vraiment l'œuvre de Castaneda, c'est vraiment un trésor?
Ah, c'est un trésor. C'est un trésor d'évolution personnelle extraordinaire. Qui ne veut pas dire que c'est le seul. Hein. Dans le taoïsme, on trouve des sacrés trésors. Hein. Dans l'hindouisme aussi.
Ok. Alors, merci beaucoup, Paul de Grise. Donc, vous travaillez là actuellement sur un nouveau projet, c'est ça, un nouveau...
Oui, je travaille sur le projet d'un livre sur la marche du guerrier de Tula. C'est un travail sur la posture debout, sur l'axe vertical et sur l'énergie qu'on peut tirer d'une meilleure façon de marcher dans notre rapport avec la Terre et avec l'énergie des étoiles.
Eh bien, c'est un beau programme et on attend ça avec impatience. Et puis, longue vie. Merci, Monsieur Degrise.